Chapitre 39. Ils ne sont pas loin, annonça Richard en revenant sous le couvert des arbres. En silence, il regarda Callan ajuster le tombé des épaules de sa robe. Le vêtement n'avait pas souffert de son long séjour dans un sac. Le tissu blanc satiné brillait comme à l'accoutumée, et la coupe très simple de la robe, sans dentelle ni fioriture, ne retirait rien à sa sobre élégance. Voir Callan dans sa robe d'inquisitrice continuait de couper le souffle à Richard. Lorsque Cara siffla, l'épouse de Richard jeta un coup d'œil hors du bosquet. Le signal que Richard avait appris à la mort de Sith imitait le chant au perché d'une espèce très commune de pioui de l'Est. Au début, Cara n'avait pas demandé de quel oiseau elle reprenait le cri. Quand elle avait posé la question et obtenu la réponse, la mort de Sith s'était écriée qu'elle refusait d'apprendre le langage d'une bestiole affublée d'un nom pareil. Peu enclin à polémiquer, le sourcier avait proposé de lui enseigner le chant d'une variété de faucons des pins à courte queue, particulièrement féroce. Un animal qui convenait mieux à une mort de Sith, avait-il admis, mais qui exigerait plus d'efforts car les modulations de son chant étaient étonnamment raffinées. Contente d'avoir pu faire son petit numéro, Cara avait opté pour la solution la plus flatteuse. Comme elle était douée, cet apprentissage ne lui avait pas pris trop de temps. Richard s'était bien gardé de lui révéler qu'il n'existait pas de faucon des pins à courte queue. De plus, aucune espèce d'oiseau de proie ne sifflait de cette façon-là. Sur son socle, la statue du guerrier continuait de monter la garde sur une partie du col où nul ne s'était plus aventuré depuis des millénaires. Pour la énième fois, Richard se demanda pourquoi les anciens avaient érigé un monument pareil à un endroit où personne ne le verrait jamais. Et quelle bizarre culture avait pu exiler de pauvres gens pour le crime de ne pas avoir en eux une étincelle de don. Encore une question sans réponse qui s'ajoutait à la longue liste du sourcier. « Ne bouge plus et laisse-moi te regarder, » dit-il à son épouse. Callan se tint bien droite, les bras le long des flancs, pendant que son mari rectifiait les plis du tissu sur ses avant-bras. Sous leurs sourcils gracieux qui évoquaient les ailes de quelque aigle majestueux, les yeux verts de la jeune femme plongèrent dans ceux de son compagnon. Richard trouvait que Callan embellissait chaque jour. Depuis leur rencontre, les épreuves et la maturité l'avaient rendue plus fascinante encore, et l'intelligence qui brillait dans ses yeux avait gagné en profondeur. « Pourquoi me regardes-tu comme ça, Richard ?» Malgré les angoisses qui le taraudaient, le sourcier ne put étouffer un sourire. « Te voir dans cette robe, avec tes longs cheveux, sur un fond de nature, me fait repenser au jour de notre rencontre. » Un sourire très particulier naquit sur les lèvres de Callan. Cette expression strictement réservée à Richard illuminait tout le visage de l'inquisitrice, l'exact opposé du masque qu'elle devait souvent porter dans l'exercice de ses fonctions. Posant les mains sur les épaules de son mari, elle l'attira vers elle et l'embrassa. Comme toujours, ce baiser entraîna Richard dans un tourbillon de désir, un vortex délicieux où il oublia pour un temps jusqu'à l'existence du monde. Callan aussi se laissa emporter. Pendant quelques secondes, il n'exista plus d'ordre impérial, d'empire Bandakar, d'épée de vérité, de carillon, de migraines provoquées par le don, de poison, de balises d'avertissement, de coureur, de sœur de l'obscurité, d'empereur Jagang ou de chapardeur nommé Nicolas. À ces moments-là, il n'y avait plus que deux. Sans Callan, rien n'aurait eu d'importance pour Richard, et chaque baiser lui rappelait qu'il en irait ainsi jusqu'à la fin des temps. La jeune femme s'écarta un peu de son mari. « Depuis notre rencontre, tu n'as eu que des problèmes, » dit-elle tristement. « Et avant, » répondit Richard, « je n'avais rien du tout parce que ma vie a commencé au moment où je t'ai trouvé. » Sur ces mots, il embrassa de nouveau sa bien-aimée. Betty choisit cet instant-là pour lui flanquer un coup de tête dans la jambe et pousser un bêlement plaintif.
« Vous serez bientôt prêts ?»
cria Jensen qui attendait à la lisière du bosquet.
« Ils seront là dans un instant. Vous n'avez pas entendu le signal de Cara ?»«
Si, si, » répondit Callan.
« Nous arrivons. »
Elle étudia Richard de la tête aux pieds et sourit.
« Eh bien, Seigneur Rall, dans ta tenue de sorcier de guerre, tu ne ressembles plus beaucoup au guide forestier que j'ai rencontré. Pourtant, tu es resté la même personne. Tes yeux n'ont pas du tout changé malgré les épreuves. Au fait, je n'y vois pas trace des maux de tête magiques.
Il me laisse en paix depuis quelque temps. De toute façon, après des baisers pareils, comment pourrait-on avoir des migraines?
Eh bien, si ce traitement est efficace, n'hésite pas à faire appel à moi dès que tu en as besoin.
Richard caressa les cheveux de sa femme, la regarda une fois encore dans les yeux, puis lui passa un bras autour de la taille. Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie du bosquet.
« Je les ai repérés !»
cria Jensen en courant vers les deux jeunes gens.
« Tout à l'heure, quand j'étais en haut. Ils seront là bientôt et Tom ouvre la marche. »
La jeune femme écarquilla soudain les yeux, comme si elle venait de s'apercevoir que les deux époux avaient changé de tenue.
« Quelle robe !»
s'exclama-t-elle.
« Et toi, Richard, tu as une de ces allures? On dirait un roi et une reine prêts à diriger le monde. »
« Eh bien, » fit Richard, « espérons que les compagnons d'Owen penseront comme toi. »
« Le seigneur Ral m'a confié un jour qu'il avait l'intention de régner sur le monde, »
confirma Kara en approchant à grands pas. Vêtue de son uniforme de cuir rouge, elle avait l'air aussi impressionnante que la première fois que Richard l'avait vue dans les couloirs du palais du peuple.
« Sans blague ?»
demanda Jensen.
« L'exercice s'est révélé plus difficile que prévu, » soupira Richard.
« Si vous nous écoutiez plus, la mère inquisitrice et moi, » dit Kara, « votre vie serait bien plus simple. »
Richard ignora la plaisanterie.
« Tu veux bien aller récupérer les affaires ?»
demanda-t-il à la mort de Sith.
« J'aimerais que Callan et moi soyons là-haut avant que Tom arrive avec Owen et ses compagnons. »
Kara partit récupérer les objets qu'ils avaient fabriqués au prix d'un travail acharné. Elle en empila quelques-uns et fit le compte de certains autres.
« Attache Betty pour qu'elle reste ici, »
dit Richard en posant une main sur l'épaule de sa sœur.
« Ça ne te gêne pas. Nous n'avons pas besoin qu'elle nous traîne dans les jambes.
« Je m'assurerai qu'elle ne bougera pas, »
répondit simplement la jeune femme. Elle bouillait d'impatience de revoir Tom, ça crevait les yeux.
« Tu es très belle, » dit Richard. « Une vraie princesse !»
Jensen eut enfin un grand sourire. La queue battant la mesure, Betty regarda les humains et les implora du regard de l'emmener avec eux.
« Allons, viens avec moi !» lui dit Jensen. « Pour une fois, tu resteras en arrière. »
Elle saisit la longe de la chèvre et l'empêcha de suivre Richard et Callan qui sortirent à pas lents du bosquet. Des nuages bas obscurcissaient le ciel jusqu'au-dessus des pics. « Dans ces conditions, pensa Richard, on avait le sentiment de ne pas être bien loin du toit du monde. » Au niveau du sol, le vent était tombé. Dans le ciel, il soufflait toujours, poussant les nuages comme s'ils étaient d'énormes oiseaux noirs en route pour on ne savait quel pays de cocagne. La tempête de la veille s'était calmée et le soleil, au cours d'une brève apparition, avait fait fondre une partie de la neige qui recouvrait le col. « Aujourd'hui, songea Richard, il y avait fort peu de chances que l'astre du jour daigne se montrer. » La gigantesque sentinelle de pierre sondait toujours l'horizon, en direction des piliers de la création. En gravissant la pente, Richard scruta le ciel et n'aperçut rien d'inquiétant. Depuis que les voyageurs avaient opté pour l'ancienne piste, les coureurs ne s'étaient plus montrés et le sourcier ne s'en plaignait pas. Le premier soir, Richard et ses compagnes avaient travaillé dur pour se construire un abri confortable. Par bonheur, ils avaient réussi à finir avant que la nuit soit tout à fait tombée. Le lendemain matin, Richard était remonté et étudiait la statue. Retirant davantage de neige, il avait découvert d'autres inscriptions. Désormais, il en savait plus sur l'homme qui avait servi de modèle à la sculpture. Depuis, des bourrasques avaient de nouveau projeté de la neige sur les inscriptions.
« Ils vont écouter, Richard, » affirma Callan. « J'en suis certaine. »
À chaque inspiration, la poitrine du sourcier lui faisait un peu plus mal et il ne parvenait plus à le cacher à ses compagnes.
« J'espère bien, sinon je n'aurai pas une chance de me procurer l'antidote. »
Seul, Richard n'y parviendrait pas, et il en avait parfaitement conscience. Même s'il savait à présent invoquer son don et dominer un minimum son pouvoir, il restait incapable de chasser l'ordre impérial de Bandakar d'un simple froncement de sourcils, fût-il magique ou non. De toute façon, un tel exploit aurait été hors de portée du plus grand sorcier de tous les temps. Quand on savait l'utiliser, la magie était un excellent outil comme l'épée de vérité, mais elle ne sauverait pas Richard, car elle n'était pas la panacée.
S'il voulait réussir, il devrait faire appel à son intelligence. Aujourd'hui, il n'était même plus sûr de pouvoir se fier à la magie de son arme. Et son don, apparemment, tentait de nouveau d'avoir sa peau. Parfois, il avait le sentiment que la magie et le poison faisaient la course pour savoir lequel des deux le tuerait le premier.
Richard et Callan gravirent la pente jusqu'à la statue, puis ils se placèrent à côté d'elle, tout en haut du col, l'endroit où ils avaient décidé d'attendre leur visiteur. De ce point d'observation, ils pouvaient voir la piste qui serpentait sur l'autre versant de la montagne.
Tom guidait la petite expédition d'un pas assuré. Levant les yeux, il vit immédiatement comment le seigneur Hall et sa femme étaient vêtus et s'abstint de les saluer joyeusement.
Décidément, songea Richard, cet homme avait l'esprit vif.
Histoire d'impressionner les Bandakars qui suivaient le géant blond, le sorcier fit coulisser l'épée de vérité dans son magnifique fourreau.
Dans le ciel, les nuages noirs formaient une masse compacte, comme s'ils se pressaient les uns contre les autres pour mieux assister à un spectacle.
Dominant de toute sa hauteur les Bandakars et l'empire d'où il venait, Richard prit la main de sa femme. En silence, les deux époux attendirent de relever un défi susceptible de changer à jamais la nature même du monde, ou de mettre un terme à l'existence du sorcier de vérité.